Orange Monnaie, transfert d'argent et paiement de factures, simple, rapide, économique, vous propose appel sur l'actualité.
Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Appelez-nous, exprimez-vous, RFI vous permet de commenter l'actualité de votre choix. Nous sommes vendredi, c'est donc la libre antenne. 20 minutes pour revenir sur tous les sujets qui vous ont marqué ces jours-ci dans l'actualité française, internationale, africaine. Si vous êtes à l'étranger, parlez-nous de l'actualité dans votre pays. C'est l'occasion aussi, cette libre antenne, de vous donner la possibilité de réagir, de nous sensibiliser peut-être à des sujets dont on ne parle pas suffisamment selon vous dans cette émission. Bref, l'antenne vous appartient. 33 9 693 693 70, 09 693 693 70 si vous nous appelez de France, les réseaux sociaux, la page Facebook de l'émission et notre adresse électronique, je vous la redonne, appel au pluriel .actu@rfi.fr. Cette libre antenne, nous l'ouvrons avec Max qui nous appelle de Brazzaville. Bonjour Max.
Bonjour Monsieur Juan Gomez.
Vous êtes centrafricain, vous vivez dans la capitale congolaise, et il se trouve que dans 10 jours, Brazzaville va justement accueillir un forum consacré à la Centrafrique. L'objectif de cette rencontre, c'est de réunir autour de la table tous les acteurs du conflit centrafricain et d'obtenir un cessez-le-feu. Et vous, en tant que centrafricain, vous dites attention, attention à ne pas mettre la charrue avant les bœufs.
Exactement Juan Gomez. Attention, pourquoi? Parce que les Centrafricains ont encore en mémoire, comme je viens d'entendre, le déplacement de N'Djamena, et les gens ont l'impression que tout était déjà préparé, et on leur a imposé une solution. Donc cette fois-ci, la classe politique centrafricaine, la société civile, les dirigeants religieux veulent s'assurer que la vie des forces vives de la nation centrafricaine est prise en compte.
Mmh. Vous faisiez référence à N'Djamena, excusez-moi Max, vous faisiez référence à N'Djamena il y a un instant. Effectivement, il y aura aussi donc cette rencontre le 21 juillet à Brazzaville, et c'est vrai qu'une partie de la société centrafricaine, une partie de la classe politique centrafricaine a l'impression qu'à chaque fois qu'il faut prendre des décisions importantes pour l'avenir du pays, ces décisions, elles se prennent à l'étranger.
Bon, le problème de l'étranger, c'est pas nécessairement ça qui empêcherait le peuple centrafricain à régler son problème. Nous avons vu le cas de plusieurs pays qui ont réglé leur problème à l'étranger. L'essentiel, c'est de s'assurer que le peuple centrafricain est pris en compte dans ce processus. Parce que c'est d'abord le peuple centrafricain qui est concerné. Le processus de Brazzaville, le forum de Brazzaville, ne sera pas l'aboutissement du processus, ça sera une étape. Mmh. Étant une étape, le but, c'est d'obtenir le cessez-le-feu. Mais la cessation des hostilités requiert quelques conditions. Les partis qui ont pris les armes, ils ont des revendications. Alors, avant d'obtenir ce cessez-le-feu, il va falloir, c'est ce que j'appelle par mettre la charrue avant les bœufs, il va falloir entendre les partis, leur laisser le temps de dégager un consensus au niveau de Bangui. À ce moment-là, quand chaque parti a la confiance mutuelle qui existe, à ce moment, les gens peuvent se déplacer pour Brazzaville en étant sereins et obtenir un résultat escompté assez facilement.
Ouais, c'est ce que demandent la classe politique et les religieux, hein, qui dans un communiqué rendu public cette semaine ont dit il faut d'abord commencer les discussions en Centrafrique, à Bangui, trouver un compromis, un début de consensus, et ensuite, pourquoi pas, allons à l'étranger, dans d'autres capitales africaines, pour signer définitivement le cessez-le-feu et la paix. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a quand même une évolution au sein de la classe politique, puisque jusqu'à hier, aucun parti ne voulait faire le déplacement à Brazzaville. Catherine Samba-Panza, la présidente, a reçu la classe politique et finalement, 7 d'entre eux acceptent de s'y rendre. Et demain, les autres se réuniront pour trancher et savoir s'ils doivent, oui ou non, se rendre dans la capitale congolaise. Est-ce que vous êtes malgré tout optimiste, Max, en tant que centrafricain? Est-ce que ce forum est peut-être la clé ou le début d'un processus de paix?
Je suis confiant. Pourquoi je suis confiant? Nous avons un médiateur, le président Denis Sassou Nguesso, qui est un homme d'expérience. Il est un homme d'expérience qui a géré beaucoup de conflits. Et comme je viens de vous dire tout à l'heure, la classe politique centrafricaine ne décide pas en bloc de ne pas se rendre à Brazzaville. Elle veut simplement s'assurer que l'intérêt du peuple centrafricain est pris en compte. Nous n'avons pas envie. Vous voyez, M. Juan Gomez, ça va avoir lieu du 21 au 23.
3 jours, oui.
Donc les gens se demandent, est-ce qu'en 2 jours, en 2 jours, les problèmes fondamentaux de la République centrafricaine pourront être réglés en deux jours pour obtenir un cessez-le-feu.
Effectivement.
Nous avons l'impression que tout est déjà préparé, que tout est déjà préparé quand ils vont venir pendant deux jours à Brazzaville, c'est juste pour apposer la signature. Mais vous savez que le conflit centrafricain est complexe.
Bien sûr.
Au sein de la CELECA, il y a des divisions, il y a des gens qui sont à Birao qui ne s'entendent pas avec certains de Bangui. Donc, lesquels qui vont venir? Est-ce que la délégation qui viendra représenter tantôt CELECA ou Anti-Balaka seront des délégations véritablement représentatives de ces entités?
Effectivement. Et vous appuyez là, et vous avancez là un problème effectivement qu'il va falloir résoudre dans les prochains jours, en tout cas au sein de la CELECA, pour savoir qui fera le déplacement à Brazzaville. Merci beaucoup Max de nous avoir interpellé sur ce forum de Brazzaville, prévu donc dans tout juste 10 jours, le 21 juillet. Des réactions concernant le nouveau gouvernement au Sénégal, il y a eu un remaniement, changement de Premier ministre. Bonjour Mokhtar. Bienvenue sur l'antenne des RFI. Vous êtes à Dakar au Sénégal et vous, vous saluez la nomination de Mohamed Done, le nouveau Premier ministre sénégalais.
Oui, absolument. Je salue la nomination de Mohamed Done comme Premier ministre, comme nouveau Premier ministre, en effet. D'autant plus qu'il a un parcours assez intéressant et très riche. Il a une expérience, une expertise. Il est passé par plusieurs postes de responsabilité. Il a occupé certaines fonctions au niveau international. Donc, nous avons préjugé favorable par rapport donc à cette nomination.
Oui, enfin, c'est un ingénieur spécialisé en économie appliquée. Il a notamment travaillé à l'ONU et depuis le mois de mars, il était ministre conseiller à la présidence chargé du suivi de l'exécution du plan de développement économique et social visant à faire du Sénégal une économie émergente. Voilà pour le curriculum vitae, en quelques mots, Mokhtar. Mais en même temps, il succède à Aminata Touré, qui semble-t-il n'a pas convaincu quand même la majorité des Sénégalais. Pourquoi le nouveau Premier ministre fera-t-il mieux qu'Aminata Touré?
Oui, comme je vous l'ai dit, hein, ce n'est qu'un préjugé favorable pour M. Mohamed Diallo. Avec Mme Aminata Touré, celle qui vient de partir donc cette semaine, on avait connu un blocage pratiquement à tous les niveaux, au niveau de l'économie, au niveau social, au niveau de la politique. On sentait un Sénégal qui s'enfermait de plus en plus sur lui-même. On n'avait pas l'impression de voir un horizon qui s'éclaircissait. Donc aujourd'hui, on peut sentir un bol d'air peut-être avec cette arrivée d'un haut fonctionnaire de l'État sénégalais d'abord.
Un proche, très proche de Macky Sall, le président du Sénégal. Mokhtar, ne raccrochez pas, restez en ligne. L'un de vos compatriotes souhaite également réagir au choix de Mohamed Diallo. Bonjour Ousmane.
Bonjour Monsieur Wang.
Vous nous appelez de Casamance, vous êtes d'ailleurs pas très loin de la frontière gambienne. Est-ce que vous êtes convaincu par ce choix ou pas?
Pas du tout. Vous savez Wang, en deux ans, trois premiers ministres, c'est comme un éternel recommencement. Les gouvernements précédents ont mis l'accent sur les capitales au détriment du monde rural. Moi je suis de la Casamance où les paysans sont en majorité musulmans. Il y a la corrupté qui approche et jusqu'en ce moment, beaucoup de paysans ne sont pas en disposition des semences. Donc, à mon avis, il faut les préfinancer, les encadrer.
Ouais, donc, ça veut dire quoi, Ousmane? Que vous avez l'impression que jusqu'à présent, le monde rural a un peu été oublié par le président Macky Sall?
Mais tous les gouvernements précédents ont toujours eu une politique citadine. Ils ont toujours essayé de développer les capitales, parce que là, je vous dis, il y a par exemple plus de 40 milliards de la Banque mondiale qui est destinée à la vallée du fleuve en faveur de l'agro-business. Alors que là, il y a plus de 30 000 hectares de rizières à réhabiliter, tu vois, qui demandent peu de moins.
Ouais. Enfin, vous dites que tous les gouvernements ont négligé le monde rural. Je me souviens que le président Abdoulaye Ouad avait lancé un vaste programme pour développer l'agriculture. Et l'actuel, le tout nouveau Premier ministre Mohamed Diallo a dit quand même qu'il allait se mettre au travail, évidemment, pour, je le cite, pour le développement d'un secteur aussi important que l'agriculture. Donc l'agriculture est une priorité de ce nouveau gouvernement.
Écoutez, ça c'est des déclarations d'intention. Nous savons qu'Aminata Touré avec Macky Sall, quand ils ont été au Conseil des ministres décentralisé à Ziguinchor, ils avaient déclaré qu'ils allaient dégager 22 milliards pour quand même promouvoir l'agriculture et l'élevage en Casamance. Mmh. Et jusqu'à présent, nous sommes restés à nos fins. Ça, c'est des déclarations d'intention, mais sur le terrain, il n'y a rien.
Donc, pas d'état de grâce pour le nouveau Premier ministre, vous concernant, Ousmane. Merci également à Mokhtar qui nous appelait de Dakar. Bon courage à tous les deux, bon week-end. Merci d'écouter RFI. Omar nous appelle de Guinée et avec lui, nous allons parler des épreuves du baccalauréat. Bonjour Omar.
Bonjour Monsieur Wan, bienvenue à l'Abbé ici en Guinée.
En Guinée, vous nous appelez de l'Abbé. Que s'est-il passé durant le bac ?
Eh bien, Monsieur Wan Gomez, merci et bienvenue. Le baccalauréat de cette année a été émaillé par une fraude massive. Hein. Là, c'est connu de tous. Les épreuves étaient connues par les élèves avant même qu'ils n'aient pas dans les salles d'examen pour les passer. Et chose qui s'est répandue dans tout le pays. Moi, j'ai rencontré des élèves ici à l'Abbé qui m'ont confirmé effectivement qu'ils sont entrés en possession des épreuves. Et j'ai même parlé aussi avec des élèves de l'intérieur du pays, dans une ville située à plus de 1000 km de la capitale qu'on a créée. Mmh. Et cet élève m'a affirmé effectivement qu'il est entré en possession des sujets du baccalauréat.
Alors, mais l'Abbé, Omar, comment les élèves ont-ils reçu les sujets? Comment les ont-ils eus?
Beaucoup ont eu à travers les camarades depuis qu'on a créé dans des téléphones portables, certains par des SMS. Mmh. Et alors, et beaucoup ont eu comme ça. Hein. Et certains même, dans leur école, ont traité des sujets dans leur école. Oui.
D'accord. En tout cas, le ministre de l'enseignement préuniversitaire a évidemment réagi. Il a promis de faire toute la lumière sur ces fraudes. Omar, est-ce qu'il faut annuler le baccalauréat 2014 et demander aux lycéens de reprendre les examens?
Ouais, moi, je crois que c'est la meilleure façon et pour crédibiliser le système éducatif guinéen. Et il faut annuler purement et simplement ces épreuves pour les reprendre. Hein. C'est d'ailleurs l'avis de bon nombre de personnes ici à l'Abbé. Je crois que c'est l'avis de bon nombre de Guinéens. Et, mais pendant qu'on parle de l'annulation, nous apprenons qu'à Conakry, les corrections ont commencé et que les résultats même pourraient tomber la semaine prochaine. Vous voyez ce que ça fait. Mmh.
Donc on sait qu'il y a eu fraude. Malgré tout, on corrige les copies et on prévoit effectivement d'annoncer, j'ai vu ça sur Internet tout à l'heure, les résultats. Je crois que c'est jeudi prochain. Omar, merci de nous avoir interpellés sur ce sujet. On vous souhaite une bonne journée. 33 9 693 693 70. Joseph, bonjour.
Ok, bonjour Juan et bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Vous êtes à Dakar, Joseph, oui. Vous êtes un étudiant congolais de l'université Cheikhanta Diop et comme la centaine d'étudiants congolais qui suivent leurs études dans cette université de Dakar, vous êtes très en colère. Alors, on me dit que ça ne passe plus. La ligne a été coupée avec Dakar. Oh, on va essayer de rappeler évidemment Joseph, puisque les étudiants congolais se mobilisent. Ils ont d'ailleurs manifesté en début de semaine. On en a parlé sur l'antenne des RFI. Et ils ont été quelques-uns, depuis le début de la semaine, à nous envoyer des mails et à réagir sur Facebook pour nous dire « Nous voulons nous exprimer et nous voulons expliquer pourquoi nous ne sommes pas contents de l'accueil que nous réserve l'université de Dakar. » On va essayer de rappeler Joseph dans les prochaines minutes. On va parler de la future Cour africaine de justice. Lors du dernier sommet de l'Union africaine, les dirigeants ont adopté en toute discrétion, vraiment en catimini, un article qui confère l'immunité aux chefs d'État et de gouvernement durant la totalité de leur mandat. C'est-à-dire que, contrairement à la Cour pénale internationale, eh bien, la future Cour africaine ne pourra pas poursuivre les dirigeants en exercice, y compris pour des chefs d'accusation de génocide, de crimes de guerre ou encore de crimes contre l'humanité. Saladin, bonjour.
Bonjour Juan, bonjour.
Vous êtes choqué par cette disposition de la Cour africaine de justice?
Effectivement Juan, je suis choqué par le comportement des dirigeants africains de notre continent. Parce que déjà vous constatez que les conditions dans lesquelles ils ont mis cette disposition, ils n'ont même pas informé leur peuple. Faire comme ça, c'est donner un chèque en blanc aux chefs d'État africains de faire ce qu'ils veulent. L'Afrique, pour le moment, n'a pas encore besoin de ce genre de disposition. Les problèmes les plus importants de l'Afrique ne sont pas réglés par ses premiers dirigeants, mais ils trouvent plus des mesures qui les couvrent. Mmh. C'est ça.
Ouais.
Ce qui nous choque en Afrique, c'est ça.
Alors vous êtes choqué comme de nombreuses organisations de défense des droits de l'homme. C'est le cas notamment d'Amnesty International qui dénonce un immense pas en arrière. En même temps, Saladin, les chefs d'État occidentaux, les chefs d'État européens sont eux aussi, on va dire, un peu protégés lorsqu'ils sont en exercice pendant leur mandat. Ils bénéficient d'une immunité. Alors pourquoi ça ne serait pas le cas pour les chefs d'État africains ?
Je veux bien, Monsieur Rouen, je suis entièrement d'accord qu'un chef d'État en fonction bénéficie de l'immunité, mais il y a des crimes personnels. Imaginez-vous que déjà, au niveau de l'Afrique, les juridictions nationales ne sont pas fortes. Mais à quoi servirait cette juridiction de l'UIA? Elle ne servirait à rien. Donc, ils ont besoin de la protection, c'est vrai, ils ont l'immunité, mais ça ne voudrait pas dire que le chef d'État africain, dans les positions où ils sont, c'est des gens qui ne respectent pas la démocratie. L'impunité ne peut pas être un principe en démocratie. L'impunité est condamnée en démocratie.
Ouais, mais enfin, en même temps, on voit bien que, par exemple, le président, le vice-président kényan font l'objet actuellement de procédures de la Cour pénale internationale. Omar El Béchir, le président soudanais, ça fait maintenant 5 ans qu'il fait l'objet d'un mandat d'arrêt de la CPI. Et on l'a entendu à plusieurs reprises, hein, les dirigeants africains taper sur la table et dire, voilà, la Cour pénale internationale, d'abord, elle ne cible que les Africains, ne condamne que des Africains, et elle ne peut pas, comme ça, s'en prendre à des chefs d'État qui sont en exercice. Ismaël, vous êtes à Londres, bonjour.
Bonjour.
Vous partagez l'analyse de Saladin ?
Non, pas du tout. Moi, je suis pour la Cour de justice africaine, et parce que la CPI a montré qu'elle n'est pas juste et qu'elle n'est pas libre aussi. Je suis un peu choqué de la réaction de celui qui a parlé tout à l'heure, parce qu'un président en exercice incarne la fierté et la grandeur d'un peuple. Et c'est donc à juste titre que la Cour de justice africaine ne veuille pas juger un président en exercice. Mais la Cour de justice africaine n'a pas dit qu'elle ne jugeait pas les présidents. Et donc,
Les chefs d'État durant la totalité de leur mandat.
Oui, mais un président en exercice, on attend qu'il ne soit plus en exercice pour qu'il puisse être jugé s'il doit être jugé. Et donc, pour moi, c'est choquant.
Mais quand il y a des accusations de génocide, comme c'est le cas pour Omar El Béchir, que fait-on?
Oui, mais on attend qu'il ne soit plus président. C'est simple. On ne peut pas juger, en jugeant un président en exercice, c'est comme si on jugeait un peuple.
Et vous ne pensez pas que ça peut inciter certains chefs d'État, comme l'ont dit certains auditeurs d'ailleurs cette semaine, inciter donc des chefs d'État à tripatouiller en permanence la Constitution pour se maintenir au pouvoir, puisque tant qu'ils resteront au pouvoir, ils pourront bénéficier de l'immunité?
Non, c'est pas une histoire de rester au pouvoir ou pas. Être président, c'est pas un poste à vie. Et donc on attend qu'il ne soit plus président pour qu'il soit jugé.
Bon, merci à tous les deux d'avoir contribué à la réflexion autour de cette question de justice internationale. Il nous reste 2 minutes. Allez, Alpha, bonjour.
Bonjour, Franck.
Popol, bonjour. On n'a pas Popol. Ah bah c'est dommage, je voulais avoir 2 auditeurs puisque pour commenter l'affiche de la Coupe du Monde de football, Allemagne-Argentine, chacun avait son équipe favorite. Vous, Alpha, vous êtes convaincu, c'est l'Argentine qui remportera la Coupe du Monde de football. Pourquoi?
Absolument. D'abord, pour une raison passionnelle, je supporte Messi.
Ah, Messi.
Et je le supporte, parce que je supporte le Barça. Mais pour des raisons plus objectives, les statistiques montrent que jamais une équipe européenne n'a gagné en Amérique du Sud quand elle s'organise là-bas. Ensuite, maintenant, du point de vue de la technique même des joueurs, je pense que l'Argentine est montée en puissance. Et qu'elle s'est améliorée, surtout sa défense s'est améliorée. Aux éliminatoires directs, ils n'ont pas encaissé un seul but.
Oui, alors ça c'est sûr. Pour avoir une bonne défense, ils ont une excellente défense. Mais enfin, ils n'ont pas d'attaque. Mais ils n'ont pas d'attaque. Oui. Comment marquer des buts sans attaque?
Di Maria va revenir. Gouro monte en puissance. Bon. Messi est le même.
Oui.
Et faut pas faire.
Messi, la pièce centrale de cette équipe argentine. En tout cas, merci à vous. On aura l'occasion, évidemment, peut-être de reparler football la semaine prochaine. Sachez que lundi, il n'y aura pas d'émission d'appel sur l'actualité. En revanche, j'aurai le plaisir de vous retrouver pour une